Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1972. La violence et le sacré est un essai majeur de René Girard, situé au croisement de anthropologie, de études des religions, de la psychanalyse et de la critique littéraire. Girard y prolonge sa théorie du désir mimétique pour proposer une explication générale des rapports entre violence, sacrifice et formation des institutions humaines. Son point de départ est que les désirs ne naissent pas de manière isolée, ils se règlent sur ceux des autres et peuvent donc produire rivalité, jalousie et contagion conflictuelle. Lorsque cette rivalité menace de dissoudre les différences qui organisent un groupe, la violence collective se concentre sur une victime. Son exclusion ou son sacrifice rétablit provisoirement la paix, puis le souvenir de cette crise est transformé en rite, en interdit ou en récit sacré, en confrontant mythes. Pratiques sacrificielles et tragédies grecques, notamment autour de Oedipe et de Dionysos, Girard entend dévoiler un mécanisme caché par les cultures elles-mêmes. Le livre propose ainsi une interprétation ambitieuse des origines du religieux et du lien social. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le désir mimétique comme source relationnelle de la rivalité, la thèse de Girard ne réduit pas la violence à une pulsion individuelle, à la seule rareté des biens ou à une opposition naturelle entre groupes. Elle commence par une structure du désir, une personne apprend souvent ce qui mérite d'être désiré en observant un modèle. Ce modèle peut être admiré, envié ou imité, mais il devient aisément un rival lorsque plusieurs personnes visent le même objet, statut ou signe de reconnaissance. Le problème central ne réside donc pas seulement dans la valeur de l'objet convoité. Il réside dans la convergence des désirs qui donne au rival une importance croissante et peut faire oublier objet initial. La rivalité devient réciproque, chacun imite autant hostilité de l'autre que son désir. Girard appelle cette dynamique une contagion mimétique. Elle éclaire pourquoi les conflits peuvent gagner un groupe entier et pourquoi les distinctions hiérarchiques ou symboliques sont parfois fragilisées pendant les crises. Cette conception se démarque de Freud, sans nier intérêt de ses intuitions, en plaçant imitation du désir plutôt que le seul désir autonome au principe du conflit. Elle fournit aussi la condition nécessaire du reste de l'analyse si la violence se propage par imitation. Une communauté doit trouver un moyen de l'interrompre sans simplement reproduire la vengeance entre adversaires. Deuxièmement, la victime émissaire est la résolution provisoire de la crise collective, selon Girard. Une crise mimétique devient particulièrement dangereuse lorsque les antagonismes se multiplient et que personne ne peut plus arbitrer les conflits. La communauté tend alors à quitter la logique de affrontement dispersé pour diriger son hostilité vers une seule personne ou un petit nombre de personnes. Cette victime est généralement assez proche pour appartenir au monde social du groupe, mais assez marginale ou vulnérable pour pouvoir être désignée comme responsable du désordre. Son élimination, expulsion ou mise à mort produit une unanimité soudaine parmi des individus auparavant divisés. Ce basculement explique l'efficacité sociale que Girard attribue au mécanisme du bouc émissaire, il ne résout pas les causes profondes de la rivalité. Mais il suspend la réciprocité violente en la concentrant. La paix qui suit peut faire croire au groupe que la victime possédait réellement une puissance maléfique, puis bénéfique, puisque sa disparition a ramené ordre. Le caractère involontaire de cette méconnaissance est décisif dans la théorie. Les participants ne se décrivent pas nécessairement comme persécuteurs. Ils interprètent leur acte à travers les catégories sacrées qui le justifient. Girard ne présente pas ce processus comme une approbation éthique du sacrifice, mais comme une hypothèse sur son rôle de régulation dans les sociétés anciennes. Troisièmement, le sacrifice rituel comme imitation contrôlée de la violence fondatrice. Le sacrifice rituel reçoit chez Girard une fonction précise, il reprend de manière réglée la violence collective qui aurait auparavant restauré la paix lors d'une crise. Après une première résolution violente, le groupe chercherait à prévenir le retour du désordre en répétant, sous une forme limitée et codifiée. Le geste qui semble avoir été efficace. Le rite ne serait donc pas un acte arbitraire ou seulement symbolique. Il constituerait une technique sociale de dérivation de la violence. Orienté vers une victime substitutive afin de protéger les membres dont la perte déclencherait des représailles. Cette logique explique l'importance du choix sacrificiel, la victime doit souvent occuper une position intermédiaire. Ni complètement intérieur, ni totalement extérieur à la communauté. Girard relie ce cadre à des interdits et à des règles destinées à empêcher les rivalités de devenir incontrôlables. Les tabous touchant la parenté, les différences sociales. Les objets ou les périodes de fête peuvent alors être lus comme des dispositifs de prévention, même si chaque tradition possède ses formes propres. Son analyse insiste sur l'ambivalence du sacré, le sacré protège ordre mais demeure lié à la violence dont il tire son efficacité. Cette relecture rompt avec une vision qui opposerait simplement religion apaisante et violence destructrice, puisque le religieux archaïque organise aussi une violence canalisée. Quatrièmement, mythe et tragédie grecque comme récit qui masque la persécution. Pour étayer sa théorie, Girard ne se limite pas aux descriptions ethnologiques du sacrifice. Il lit également les mythes et les tragédies grecques comme des documents où survivent les traces déformées de crises collectives. Dans cette perspective, un récit mythique tend à adopter le point de vue de la communauté réunie contre la victime. Il attribue au personnage frappé des fautes extraordinaires ou une puissance redoutable, ce qui rend sa condamnation intelligible et son éventuelle divinisation possible. La victime est ainsi perçue à la fois comme cause du désordre et source du nouvel ordre. Girard accorde une place importante aux récits liés à Oedipe et à Dionysos, ainsi qu'aux thèmes des jumeaux, des frères ennemis, du double, du masque et de l'inceste. Ces motifs ne sont pas traités comme des symboles isolés, ils renvoient, selon lui, à une crise où les différences sociales et identitaires vacillent sous effet de imitation. Sa lecture entre en débat avec Freud et avec les approches structuralistes. Là où celle-ci privilégie des structures symboliques ou familiales, Girard cherche derrière les récits le souvenir transformer une violence unanime. Cette méthode est féconde pour rapprocher des matériaux hétérogènes. Mais elle expose aussi ouvrage à une objection majeure, la difficulté de vérifier indépendamment événements fondateurs reconstruits. En dernier lieu, une théorie totalisante du sacré. Entre puissance interprétative et limites méthodologiques, la force de la violence et le sacré tient à ambition de relier des domaines souvent séparés: désir, conflit, rite, interdit, mythe et institution. Girard propose une chaîne explicative cohérente: imitation des désirs, escalade de rivalité, crise indifférenciée, polarisation contre une victime, réconciliation collective, puis institutionnalisation rituelle de cette solution. Cette cohérence aide à comprendre pourquoi violence et sacré peuvent être étroitement associés sans que le sacré se réduise à une simple célébration de la cruauté. Elle explique également pourquoi les récits fondateurs peuvent dissimuler la victime au lieu de reconnaître son innocence. Toutefois, la portée universelle de la thèse constitue sa principale zone de débat. Plusieurs critiques ont jugé que Girard étendait trop largement un modèle unique à des cultures, textes et pratiques très différents. Sa manière de considérer les transformations du mythe comme des effets de dissimulation peut donner l'impression que les contre-exemples confirment encore la théorie, ce qui fragilise sa réfutabilité. Ces discussions de Freud, de l'ethnologie et du structuralisme ont donc suscité des réserves importantes. Ces limites ne rendent pas le livre négligeable, elles invitent plutôt à le lire comme une proposition anthropologique forte, à confronter au contexte historique précis et aux interprétations concurrentes, plutôt que comme une explication définitivement démontrée de toute culture. En conclusion, la violence et le sacré convient en priorité aux lecteurs de philosophie, anthropologie, études religieuses, littérature comparée et théorie sociale. Il intéressera aussi ceux qui cherchent des outils pour penser les mécanismes de rivalité, de polarisation et de désignation de responsables au sein des collectivités. Le bénéfice intellectuel du livre réside moins dans une réponse immédiatement applicable que dans une grille de lecture exigeante. Elle oblige à examiner le rôle des désirs imités, des conflits réciproques et des récits qui rendent une violence collective acceptable. Cette grille peut éclairer des phénomènes modernes, à condition de ne pas transposer sans précaution le modèle des sociétés rituelles aux situations contemporaines, par rapport aux essais qui isolent le religieux, le mythe ou la violence. Girard se distingue par une hypothèse unificatrice et par une circulation constante entre matériaux ethnologiques, textes antiques et débats avec Freud ou le structuralisme. Il ne traite pas le sacrifice comme une survivance étrange, mais comme une institution liée à une fonction de pacification précaire. Sa lecture des mythes insiste surtout sur le point de vue de la victime et sur les procédés de méconnaissance qui entourent la persécution. Cette ambition fait de l'ouvrage une référence durable et controversée. Le lecteur y gagnera une compréhension nette de la théorie mimétique dans sa dimension anthropologique, tout en devant garder une distance critique face à ses généralisations et à la difficulté de soumettre certains de ses postulats à une vérification indépendante. Si vous souhaitez soutenir René Girard, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.